L'Écriture. Ceux qui ont été présents à quelques-unes de ces réunions savent que je me plais surtout dans les quelques paroles que je vous adresse, mes chers amis en Christ, qui me donnez une si grande marque de votre charité à repasser par-dessus les souvenirs d'un chrétien qui se croit prêt à comparaître devant Dieu, et puis aussi à recueillir en sa présence et à vous communiquer les résultats capitaux de ses études sur la parole de Dieu et la conviction dans laquelle il souhaite d'achever de vivre et de mourir. Ayant à ce point de vue exposé les résultats auxquels je suis parvenu concernant le péché et la personne du Seigneur Jésus-Christ, j'en viens aujourd'hui à vous entretenir quelques instants de sa parole. Je déclare, comme devant le tribunal de Jésus-Christ où je m'attends à comparaître bientôt, que toutes mes recherches et mes études, soit de l'Écriture, soit de l'histoire de l'Église, soit de mon propre cœur, et que toutes les discussions qui se sont dans ces dernières années élevées sur l'inspiration et l'autorité divine de la parole de Dieu n'ont fait, durant la triple période de mon ministère, trois périodes d'environ 10 ans chacune, à Lyon, à Montauban et à Paris, que me confirmer, quoique par des chemins que la sagesse de Dieu a fait quelque peu divers, dans la conviction inébranlable que quand l'Écriture parle, c'est Dieu qui parle, et que quand elle proclame sa volonté, la voie du salut, les grandes doctrines du péché, de la grâce, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce qu'elle nous dit n'est pas moins véritable et moins assuré que si le ciel s'entr'ouvrait dans ce moment sur notre tête, et si la voix de Dieu retentissait comme autrefois en Sinaï, nous disant les mêmes choses. Il n'y a pas de borne à la confiance et à la soumission que nous devons aux Écritures, pas plus de borne qu'on en trouverait à la vérité et à la fidélité de Dieu. Si bien que, lorsque dans un jour dont Dieu seul connaît le nombre et auquel j'aspire comme à une délivrance, sans oser toutefois le presser, quand ce jour sera venu et que j'entrerai dans le monde invisible, je ne m'attends pas à y trouver les choses autrement que la parole de Dieu ne me les a représentées ici, à part, bien entendu, la différence immense des conditions et de l'état de l'âme avant ou après la mort, dans le temps ou dans l'éternité. Mais au fond, la voix que j'entendrai alors, qui sera revêtue de tout pouvoir de juger, qui règnera sur toutes les créatures, cette voix sera la même que j'entends aujourd'hui sur la terre, et je dirai « C'est bien là ce que Dieu m'avait dit, et combien ne lui rends-je pas grâce aujourd'hui de ce que je n'ai pas attendu d'avoir vu pour croire ?» C'est que l'Écriture est l'expression divine des vérités et des maximes qui forment le fond même des choses invisibles et éternelles. Elle est comme une lettre que Dieu a écrite du monde invisible à ses enfants, retenus dans le monde visible, pour que, sur la foi de Dieu, ils apprennent dès à présent comment sont les choses et qu'ils agissent en conséquence pour sauver leurs âmes. Ceux qui croient Dieu les sauveront, mais ceux qui ne croient point Dieu, comment les pourraient-ils sauver? L'Écriture est donc la parole de Dieu dans le sens le plus élevé et tout ensemble le plus simple et le plus populaire de ce mot. Elle est l'unique règle sûre de la foi et de la vie. Une règle à laquelle toutes les autres doivent être soumises. Tout ce qu'il y a de réunions dans le monde, de comités, de conférences, de prières, de recherches communes, n'a aucune valeur qu'autant qu'il est soumis et subordonné à l'autorité souveraine, infaillible, immuable de la parole de Dieu. Le témoignage que je lui rends ici n'est que le témoignage que lui a rendu, je ne dis pas seulement un Moïse, un David, un saint Paul, un saint Jean, un Augustin, un Chrysostome et tous les saints de tous les temps. Mais il est le témoignage que lui a rendu Dieu lui-même et Jésus-Christ qui donne à la parole de Dieu la même gloire qu'il reçoit d'elle. L'expérience et l'observation qu'il nous est permis d'invoquer, pourvu que ce soit avec une humble défiance, vient confirmer miséricordieusement tous ces témoignages. Car jamais il n'a été donné à aucun homme, ni à aucune réunion d'hommes, de composer un livre, fût-ce un livre très court, qui égale la Sainte Écriture et qui soit capable de produire les mêmes effets de consolation, de sanctification, de conversion. Jamais cela ne sera donné à aucun homme, à aucune réunion d'hommes, à moins que le Saint-Esprit ne les conduise de la façon spéciale dont il a conduit les apôtres et les prophètes. Ce n'est pas une question de sainteté personnelle, puisque cette sainteté que nous venons de reconnaître à l'Écriture n'est pas moindre dans les discours d'un saint Paul que dans ceux de Jésus-Christ lui-même. C'est une question de direction divine. Cette direction divine paraît plus clairement encore quand on considère que ce livre a été écrit dans un ordre tout historique et que, cependant, répandu sur une surface de près de 2000 ans, il a sur chaque point une doctrine suivie et égale à elle-même. La Bible est un livre à part, que nul autre n'a jamais, ne saurait jamais égaler. Et elle règne seule sur tous les systèmes, toutes les incertitudes et toutes les questions qui occupent ou agitent l'humanité. Mais à peine j'entre ici dans un nouvel ordre de pensée, ai-je sanctionné pour ma part le nom de parole de Dieu que la Bible a reçu de Dieu lui-même et de Jésus-Christ, qu'en examinant de près ce livre, je le trouve plein de l'homme, tant il renferme de marques d'humanité, et au premier moment, je pourrais ressentir une sorte de frayeur, comme si je m'étais engagé trop avant dans le témoignage que je lui ai rendu. Je reconnais en effet chez les écrivains de ce livre une individualité de style et de caractère si marquée que si par impossible on venait à retrouver aujourd'hui quelques livres perdus qui, par erreur, n'eût pas jusqu'ici fait partie du canon, il n'y a pas un homme, tant soit peu versé dans les saintes Écritures, qui ne fût capable de dire à l'instant s'il est de Jérémie ou d'Isaïe, de Pierre, de Jean ou de Paul, tant il y a de différence entre ces écrivains, et tant chacun a imprimé son caractère particulier à tout ce qu'il a écrit. J'y trouve bien des choses que les écrivains de ce livre ont pu dire sans un secours particulier de l'Esprit de Dieu. Et comme Dieu ne fait pas de miracles inutiles, nous voyons là l'Esprit de l'homme qui a sa part dans la rédaction de la parole de Dieu. Il y a plus. J'y trouve des traits qui rappellent l'infirmité humaine, comme lorsque saint Paul cherche à recueillir ses souvenirs, sans oser se fier à leur témoignage pour le nombre des personnes qu'il a baptisées à Corinthe. Mais il ne s'en préoccupe pas, n'ayant pas été envoyé pour baptiser, mais pour annoncer Jésus-Christ. Il a été clairement dans les vues de Dieu qu'à chaque page de ce livre que nous appelons la parole de Dieu, on reconnut en même temps une parole d'homme. Mais si un homme qui n'a pas réfléchi peut en concevoir une sorte de frayeur, il ne tardera pas à se rassurer et avoir au contraire un gage de bénédiction, de lumière, de spiritualité dans ce qu'il y a d'humain dans la composition des Écritures. Car enfin, comment cela pouvait-il être évité? Cela ne pouvait être évité que si elle avait été dictée mot à mot, sans influence du caractère personnel ou des événements historiques. Prenons un exemple extrême, que je cite avec un profond respect. Quand Dieu place dans la bouche d'un stupide animal des paroles de répréhension contre un prophète infidèle, il est bien évident que sa parole agit sans intermédiaire, doué de volonté, et que l'inspiration, car c'en est bien une, est d'autant plus visible cette fois que l'instrument en est plus complètement passif. Qu'y a-t-il dans cette inspiration d'un être privé de raison qui se puisse comparer à l'inspiration d'un apôtre tout imprégné de son expérience et de ses sentiments personnels? Une remarque semblable, appliquée à tous les degrés de l'échelle intermédiaire, en proportion de l'activité ou de la passivité de l'instrument, ferait comprendre que l'inspiration gagne en intérêt à mesure qu'elle devient plus personnelle, sans rien perdre en autorité. Aussi, que l'Écriture est plus belle, qu'elle est plus touchante, telle qu'elle a été donnée. Donnée de Dieu dans l'ordre de l'histoire, par le moyen d'hommes dont l'Esprit de Dieu conduit l'Esprit, d'hommes semblables à nous qui ont pu dire « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », d'hommes dont on a pu dire, par exemple, « Élie était sujet aux mêmes infirmités que nous, et cependant, ayant prié avec grande instance qu'il ne plût point, il ne tomba point d'eau sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La parole de Dieu étant donnée dans l'histoire à des hommes tels que nous, et n'étant point apportée par des créatures supérieures et invisibles, mais par des hommes faibles comme nous, sauvés comme nous, qui ont cru les premiers et qui ont pu dire « J'ai cru ce que je vous exhorte à croire », a par cela même une vie, une fraîcheur, une puissance qui touche beaucoup plus profondément notre cœur et forme entre ce cœur et cette parole une familiarité et comme une amitié secrète qui fait que le plus solennel de tous les livres en est en même temps le plus tendre et le plus cher. Il y a ici une connaissance profonde du cœur de l'homme et l'une des beautés les plus intimes de la parole de Dieu. Ainsi la Bible, pour avoir été composée par de simples hommes qui n'ont pas cessé en l'écrivant de combattre contre le péché et de dépendre personnellement de la foi qu'ils annonçaient, non seulement n'en est pas moins la parole de Dieu, mais elle est d'autant plus divine qu'elle est plus humaine, c'est-à-dire connaissant d'autant plus la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu et son influence sur nos âmes, que Dieu s'est servi pour l'écrire d'organe en qui son Esprit a seul pu opérer cette puissance et cette lumière surnaturelle pour en faire des vaisseaux destinés à porter la vérité jusqu'au bout du monde. C'est par là que l'Écriture sainte gagne jusqu'au plus profond de nos cœurs, et que tout en nous instruisant de la part de Dieu, elle nous instruit en même temps par les hommes, réunissant à la fois toutes les conditions capables de toucher, d'éclairer, de convertir à Dieu, de soustraire aux ténèbres du siècle et d'accomplir tout en tous. Il y a, mes chers amis, et c'est ma dernière pensée, il y a un contraste, ou plutôt un rapprochement, qui pour le chrétien achève d'éclaircir tout ensemble et de confirmer ce que je viens de dire. C'est la vue que nous avions dimanche dernier, et que l'Écriture nous donne partout, de Jésus-Christ réunissant en soi la nature divine et la nature humaine, d'une façon si merveilleuse que nous n'en pouvons pas rendre compte, mais qui est pourtant le fondement et la consolation de notre foi. Dimanche dernier, nous avons commencé par considérer Jésus-Christ dans sa perfection humaine, après quoi nous l'avons contemplé dans sa divinité. Supposez que nous eussions renversé cet ordre, que nous eussions parlé d'abord de la nature divine de Jésus-Christ et de l'obligation où nous sommes de l'adorer comme Dieu lui-même, et qu'ensuite nous eussions fait pour la première fois cette réflexion. Mais Jésus-Christ est un homme capable de souffrir, de mourir. Je ne sais quelle crainte aurait pu également se glisser dans notre âme, comme si nous lui avions trop attribué de divinité. Mais ainsi que nous l'avons vu dans cette même allocution de dimanche, l'Écriture nous fait voir partout que cette parfaite divinité s'allie en lui avec la parfaite humanité, et que l'une relève le prix de l'autre sans en compromettre en rien la réalité. Elle nous révèle même qu'il est d'autant plus homme qu'il est plus Dieu et d'autant plus Dieu qu'il est plus homme. Car quels sont les moments dans lesquels Jésus-Christ est le plus homme? N'est-ce pas dans la tentation du désert, dans l'angoisse de Gethsémané et dans l'affreuse agonie de la croix? Et ne sont-ce pas là aussi les moments où il est le plus Dieu, vainqueur qu'il est du tentateur, surmontant la douleur et triomphant de la croix par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en lui, non pas avec mesure comme en nous, mais sans mesure comme dans le Fils unique du Père. Les choses se passent d'une manière semblable pour la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu, sa parole véritable, éternelle, et en même temps, c'est une parole d'homme où l'on sent reluire l'esprit de l'homme et battre le cœur de l'homme. Et c'est pour cela qu'on peut dire qu'elle est d'autant plus divine qu'elle est plus humaine, parce que c'est précisément dans les moments où l'on sent le mieux dans un saint Paul, dans un saint Jean, par exemple, le combat de la foi, la lutte persévérante contre le péché, qu'on sent le mieux aussi combien est divine la lumière répandue dans leurs âmes, premièrement pour lutter pour leur propre compte, et puis pour répandre avec une vertu divine cette lumière dans le monde entier. Que ce rapprochement entre Jésus-Christ et l'Écriture sainte me paraît admirable. Au reste, c'est un rapprochement, vous pouvez le croire, que je n'ai pas tiré de mon cerveau, mais qui m'est fourni par la parole de Dieu elle-même. Pour celui qui sait qu'elle ne parle point en vain, Il suffit de se rappeler une chose bien étonnante, c'est que les Écritures donnent parfois le même nom à Jésus-Christ et à l'Écriture sainte. Elles les appellent l'une et l'autre la parole de Dieu. L'une de ces paroles, Jésus-Christ, est la parole vivante de Dieu, la manifestation personnelle de ses perfections invisibles au sein de l'humanité. L'autre, l'Écriture, est la parole écrite de Dieu, manifestation verbale donnée par le langage de ces mêmes perfections invisibles. Elles sont inséparables pour nous, car ni Jésus-Christ ne nous est révélé que par l'Écriture, ni l'Écriture ne nous est donnée que pour nous révéler Jésus-Christ. Ainsi, l'Écriture est la parole écrite de Dieu, comme Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. Ceux qui s'appuient des caractères humains de l'Écriture pour en méconnaître la divinité raisonnent comme ceux qui s'appuient sur la personnalité humaine de Jésus-Christ pour lui refuser le titre de Dieu, faute de comprendre que la nature humaine et la nature divine sont unies dans la personne de Jésus-Christ, comme la parole humaine et la parole divine sont unies dans les Écritures. Il n'est pas plus étonnant que l'Écriture, quoique parole de Dieu, porte en même temps tant de traces d'humanité qu'il ne l'est que Jésus-Christ, quoique Dieu soit homme. Quant à la manière dont se fondent les deux natures dans un cas et les deux voies dans l'autre, c'est le fond même de l'objet de la foi sur ce point, mystère profond, mais, nous dit saint Paul, mystère de piété et qui remplit notre âme de joie et d'espérance. Oui, l'Écriture est l'unique chemin par lequel nous puissions arriver à connaître Jésus-Christ sans danger d'erreur, comme Jésus-Christ est l'unique chemin par lequel nous puissions arriver au Père. Oui, si vous voulez sauver vos âmes, il faut croire à la parole de Dieu, il faut vous soumettre à la parole de Dieu. Il ne faut rien chercher au-dedans de vous-même, sous quelque beau nom que ce soit, raison, intelligence, sentiment, conscience, qui domine, qui juge, qui contrôle la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la contrôler, il s'agit d'être contrôlé par elle. Les plus grands de tous les serviteurs de Dieu sont ceux qui s'abaissent devant cette parole, des saints Paul, des David, des Luther, des Calvin, jaloux de s'humilier devant elle jusque dans la poudre, et s'il le pouvait plus bas encore. Qu'elle règne donc sans partage, cette parole de mon Dieu Sauveur, à laquelle je suis si heureux de pouvoir rendre encore ce témoignage, avant que je m'en aille et que je ne sois plus, en attendant que ce drapeau de la vie éternelle, que nous ne savons ici-bas ouvrir qu'à demi, achève de se déployer pour nous dans la pure et sereine lumière d'en haut.